Initiation théologique par le père Philippe à Rimont, le 17 novembre 1989, sur le Christ.
Je dois vous parler du Christ. C'est ce qu'il y a de plus agréable. Saint Bernard dirait que c'est ce qu'il y a de plus doux. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais aussi pour nous, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Puisque le mystère du Verbe incarné, c'est sûrement pour notre foi ce qu'il y a d'ultime, ce que nous essaierons de comprendre. Au point de vue difficulté, le père Dreyfus rappelle dans son livre sur le Christ combien pour un juif croyant l'affirmation que le Christ dise qu'il est Dieu était quelque chose d'impossible. 2000 ans de révélation, de tradition pour montrer le monothéisme. Je dirais le monothéisme à votre soi, si vous êtes un peu intelligent. Puisque ça a beaucoup de difficultés par rapport à des traditions religieuses plus ou moins vraies et fausses. Arriver à faire que tout l'Olympe se réduise uniquement, il y avait toujours la tendance, Zeus, c'est le seigneur des seigneurs, c'est le dieu des dieux. Et les païens sont arrivés à affirmer ça. Mais montrer que dans le monothéisme, il y a ce mystère de fécondité et que Dieu, créateur absolument transcendant, devienne homme, le Verbe est devenu chair, egeneto sarx. Pour l'intelligence humaine, c'est fou. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est au-delà de toute imagination. Mais les imaginations mythiques, c'était l'homme avec toutes les combinaisons possibles et imaginables. Et que Dieu devienne chair, avec tout ce que ça indique, la chair, sarx, c'est la corruptibilité, c'est la fragilité, c'est la temporalité, c'est tout cela. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont à l'esprit encore ce que Merleau-Ponty a pu écrire quand il a été reçu au Collège de France. Il a montré, parce qu'on l'avait accusé d'athéisme, il a montré qu'il n'était pas athée, mais qu'il était pour la pureté de la vision sur Dieu, et que le mystère de l'incarnation, c'était insupportable. Merleau-Ponty était chrétien, quand il était anormal, faisait partie du groupe des Talas. Il a eu des difficultés dans sa vie. Oui, les Talas, ceux qui vont à la messe. Hein. Et officiellement, n'hésitez pas, je le montrais. Et puis, il y a eu des difficultés, je crois. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Je vois-t-il qu'il a progressivement tout abandonné. Mais dans le fond de son cœur est resté celui qui est attaché à Dieu et qui ne souffrait plus le produit de l'incarnation. Il y a des phrases extrêmement cinglantes au plan philosophique. Comment celui qui est éternel, qui est indivisible, peut-il descendre dans la corruptibilité, dans la temporalité? On ne peut pas accepter ça. Et il reflète là, vous voyez, quelque chose qui pour nous est important à saisir. Parce que quand on vit en chrétienté, on est habitué à accepter le mystère du Christ en croyant, sans difficulté. Je vous disais la parole de Saint-Bernard. C'est ce qu'il y a de plus doux de parler du Christ. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et c'est vrai, hein, je crois. Mais on vit un monde qui se paganise. On vit un monde qui se matérialise. On vit un monde qui est séduit par l'islam. Bientôt. Et ça monte. Fanatisme de l'islam. C'est plus facile d'être musulman que d'être chrétien. Puisque le monothéisme, c'est plus facile à accepter. Il faut, je crois, que nous comprenions. Ça fait partie, vous voyez, de la théologie, cela. Le théologien doit être un croyant conscient de toutes les difficultés de la foi et de toute la grandeur de la foi. Je dirais plutôt un chrétien conscient de toute la grandeur de la foi et de toutes les difficultés de la foi. Ne pas être conscient des difficultés de la foi, ça fait qu'on n'est pas un théologien. Un peu naïf, vous voyez. Le théologien est conscient des difficultés de la foi. Il est conscient de cet effort constant qu'il faut pour croire. Et que seule la grâce, je dis bien seule la grâce, peut permettre cette adhésion. Et donc quand quelqu'un cherche de bonne foi, qu'il ne trouve pas, il faut être très respectueux. Quand quelqu'un a été élevé dans un milieu totalement différent, il faut être très respectueux de son intelligence. Pas lui faire croire que ça va de soi de croire. Ça va pas du tout de soi. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça va plus du tout de soi. Et je crois que on en ressent les conséquences, voyez, par rapport à notre vie religieuse. Ça va pas de soi. Parce que la vie religieuse n'a pas de sens si le Christ n'est pas Dieu. N'a aucun sens. Sacrement de mariage n'a aucun sens. Si le Christ n'est pas Dieu. Donc, dès que notre foi dans le Christ faiblit, et elle faiblit, mais quand je dis faiblit, je sais ce que ça veut dire, il ne faut pas dire qu'elle diminue. Elle faiblit, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vécue avec l'intensité qu'elle faudrait. La foi ne peut être gardée dans le monde d'aujourd'hui que si elle est fervente. Là, j'en suis sûr. Et je crois que beaucoup divorcent, tiennent plus compte du sacrement de mariage. Beaucoup, dans la vie religieuse, ne tiennent plus compte de ce que c'est que la profession perpétuelle. Parce qu'au fond, ils ne croient plus à Jésus avec la même ferveur. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et que le théologien doit comprendre. Parce qu'on respire un air qui est en opposition vis-à-vis de cette foi dans le Christ. On revit un peu, voyez, ce que les premiers chrétiens ont dû vivre. Si on était soldats romains, la Légion, et qu'on se mettait à avoir la grâce du Christ et la lumière du Christ, on devait quitter son métier. Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont prêts à quitter leur métier pour sauver leur foi? Il y en a. Il y en a beaucoup d'autres. Non. Vous voyez, c'est ça que je voudrais que nous prenions conscience. Une session de théologie, c'est aiguiser votre intelligence de croyant. Par amour pour le Christ, par amour pour Dieu, la très sainte Trinité. C'est aiguiser. Il ne faut pas une intelligence molle dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que je crois qu'une intelligence molle, pour le chrétien, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut une intelligence pénétrante, une intelligence qui va jusqu'au bout et qui n'hésite pas à voir toutes les difficultés que ça représente. Je veux dire, à ce point de vue-là, Merleau-Ponty, j'ai toujours aimé, je l'ai jamais rencontré, puis rencontré sa fille, c'est à cause de sa fille que je l'aime, sans doute. C'est une fille extrêmement intelligente, mais je vous l'ai déjà dit, la réflexion qu'elle m'avait faite. C'est pas drôle d'avoir un père philosophe. Je dis pourquoi? Eh oui, parce qu'il ne parle pas. On dit que Merleau-Ponty n'était pas d'un réalisme absolu au début de sa vie philosophique, hein, à la fin de sa vie philosophique. Ça aurait été très intéressant de le rencontrer. Il parlait de l'être sauvage. Qu'on est l'être cultivé, l'être cultivé, c'est l'idée. Rien de plus cultivé qu'une idée. Mais il perd en force. Il ne subsiste plus. Il est nuageux. À la fin de sa vie, l'être sauvage, l'être abrupt, l'être non touché par l'homme. C'est ça la personne humaine. C'est ça l'homme. Le voir dans son réalisme, le corps de l'homme. Une session de théologie consiste à essayer de voir combien notre intelligence, pour être au service de la parole de Dieu, doit aller très loin dans sa pénétration. Très loin dans la recherche de la vérité. Si la révélation nous donne une vérité divine, si la foi a comme objet propre la vérité première se révélant, il ne faut jamais oublier. La foi ne s'arrête pas à la parole. Et quand le croyant a une foi qui s'arrête à la parole de Dieu, ça prouve que sa foi n'a plus la vitalité qu'elle devrait avoir. La foi adhère à la vérité première se révélant. C'est fou de penser que par la foi, l'intelligence a un contact direct, obscur, mais direct, avec la vérité première se révélant. Et que la parole de Dieu nous est donnée pour être le sycomore, puisque c'était l'évangile l'autre jour, qui nous permet d'adhérer à la vérité première. On se sert de la parole de Dieu pour adhérer au mystère. Et le mystère, c'est Dieu lui-même. Le mystère, c'est le cœur de Jésus. Le mystère, c'est l'Église. On adhère au mystère en dépassant la parole. On se sert de la parole. Oui, c'est pour ça que toutes les discussions trop nombreuses sur la parole, est-ce que c'est une parole de Jésus, est-ce que c'est pas une parole de Jésus, on perd un temps énorme et la foi perd sa force. C'est la personne du Christ à laquelle on adhère. Le Verbe devenu chair. Donc, cette session de théologie, où j'ai la bonne part, puisque je dois parler du Christ, c'est là où la révélation prend toute sa force. C'est là où la foi prend toute sa force. C'est là où la théologie prend toute sa force. Je vous dirai en quelques mots Parce que c'est important, ça. Pour confirmer ce que je vous dis. Parce que pour quand même, parce qu'on est en théologie, le début de l'Épître aux Hébreux. Après avoir, à bien des reprises, et de bien des manières, parlé jadis à nos pères, par les prophètes, Dieu, en cette fin des jours, est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous vivez en cette fin des jours? C'est beau, hein? Le soleil qui commence à décliner, c'est pour ça que ce cours est là, à la fin de la journée, le soleil qui commence à décliner. Et quand c'est l'hiver, il décline plus vite. Alors on est en plein hiver, hein, on a de la foi. Dieu, en cette fin des jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a fait les mondes, resplendissant de sa gloire et empreint de sa substance, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom dont il a hérité l'emporte sur le leur. C'est magnifique, hein? Grandeur. On voit tout l'aspect relatif de l'Ancien Testament et l'aspect absolu. Assis à la droite. L'aspect absolu. La parole du Christ a, dans son contenu, dans sa valeur, quelque chose d'unique. C'est la parole du Fils bien-aimé. C'est la parole qui a la puissance unique. Donc la foi, notre foi chrétienne, quand elle adhère à Jésus, atteint son sommet. La foi dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, est une foi qui n'est pas encore pleinement explicite. Comme foi, c'est une foi d'attente. Substantiellement, c'est la même foi, mais dans son exercice, dans sa vitalité, elle demeure imparfaite. Elle demeure liée à la loi, elle demeure liée aux prophètes. Ce qui est extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est qu'elle dépasse la loi. Elle n'est plus limitée par les prophètes. Elle adhère à Jésus, le Fils bien-aimé. C'est encore une foi d'attente, puisque la foi est essentiellement une attente. Mais c'est une foi, j'allais presque dire viatique, vous voyez, viatique de la vision béatifique. C'est une foi qui appelle la vision béatifique, appelle la pleine lumière, parce qu'elle ne peut pas aller plus loin comme foi. Elle adhère au Christ. Je crois que c'est ça qu'il faut d'abord rappeler. C'est que le Christ, c'est la consommation de tout. Et puis dans Colossiens, je pourrais prendre aussi, hein. Saint Paul a très fort le sens de ça. Même si l'Épître aux Hébreux n'est pas de Saint Paul, c'est les mêmes veines. Jean nous montre le repos. Donc, la foi viatique de la vision béatifique du Verbe. Mais c'est très net. Il faut se rappeler ça tout de suite, que le Christ est au sommet. Au point de vue mystère, de la foi est au sommet. Donc c'est là où ma foi est plénière, c'est quand j'adhère au Christ. Par le Christ au Père, puisque je ne peux pas adhérer au Christ sans adhérer au Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et j'adhère au Paraclet, puisque c'est lui qui l'envoie. J'adhère au mystère de Marie, la mère. J'adhère au mystère de l'Église. Voyez comment la foi dans le Christ contient tout. Rien de plus. Vous ne pouvez pas ajouter quelque chose. Tandis que quand vous adhérez à la parole d'Abraham, il y a beaucoup de choses qui doivent venir en plus. Quand vous adhérez à Isaïe, il y a beaucoup de choses qui doivent se préciser. Ce qui est merveilleux dans la foi dans le Christ, c'est que c'est une foi qui réclame la contemplation. Parce que c'est une foi plénière. Qui réclame la plénitude de l'amour. Jésus nous le dit. Il est venu apporter la plénitude de l'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Et tout est résumé là. Donc, il faut comprendre qu'au point de vue de la foi, le Christ, c'est un sommet. Mais un sommet qui reprend tout. Le Christ, nouvel Adam. Et donc, on reprend tout. Il y a une vision nouvelle de la création. Par sa parole, il crée tout. La parole puissante. Il y a un regard nouveau de la création dans le Christ. Et le mystère de la rédemption, nous verrons demain, c'est une recréation. Donc, c'est un sommet, mais il reprend tout. Tout est repris. Dans un regard de sagesse, dans un regard contemplatif. Il y a une vision nouvelle de l'homme dans le Christ. On dirait, en théologie, il y a une nouvelle anthropologie. Il y a une nouvelle vision de l'univers. Je ne regarde pas l'univers de la même façon avec la Genèse ou dans le mystère du Christ assis à la droite du Père. Donc, c'est un sommet et une reprise de tout. Au point de vue de la foi, je crois que là, nous sommes tous d'accord. Que l'adhésion à Marie est toute relative à Jésus. Donc, c'est vraiment Jésus qui, au point de vue de notre foi, est le sommet et où tout est repris. Par le fait même, la théologie du Christ, puisque c'est ça qui nous intéresse maintenant, la théologie du Christ, demain nous verrons le regard de saint Thomas. Ici, je prends un point de vue plus général. Saint Bonaventure a aussi sa vision sur Jésus, sur le Christ, heureusement. Tous les pères de l'Église, tous. Saint Bernardin. Tous. Le pape actuel. Et chez tous ces théologiens, le sommet, c'est leur regard sur le Christ. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui caractérise une théologie chrétienne, la théologie du Christ? C'est quand même ça qu'on doit regarder. C'est très important ça, surtout quand on a saint Thomas dans le dos. Parce qu'il a compris ça. Je ne veux pas parler de saint Thomas maintenant. Maître, son intelligence au service d'un mystère qui nous dépasse complètement. D'un mystère qui, au point de vue de l'intelligence humaine, au point de vue de la philosophie humaine, semble faire tout craquer. L'éternité dans le temps. L'immutabilité dans le mouvement, dans le devenir. La sagesse dans l'expérience limitée d'une connaissance acquise. L'amour infini de Dieu dans la volonté, capacité d'aimer. Maître, le Dieu créateur, infini, dans cette petite nature humaine. Quand saint Augustin dit qu'il faudrait mettre la mère dans un petit coquillage, il dit ça pour le gosse qui s'amuse. Comment peut-il mettre l'océan, même la Méditerranée, puisque saint Augustin regarde la Méditerranée, Même la Méditerranée. Dans un petit coquillage. Bien, c'est rien comparativement à Dieu qui s'incarne. Dieu qui se fait homme. Petit coquillage. La vie. C'est fou. Alors, le théologien est en face de cette folie d'amour. Parce que c'est une folie d'amour, hein. Au point de vue rationnel. Et Merleau-Ponty, lui, il regarde ça rationnellement. Au point de vue rationnellement, c'est absurde. Dieu, très bien, mais pas le mystère de l'incarnation. Pas le mystère de la rédemption. C'est impossible. Pour la raison, c'est impossible. Et pourtant, le théologien met son intelligence au service du mystère d'incarnation. Il veut mettre son intelligence au service du mystère d'incarnation. Il doit le faire. Si on est un chrétien qui veut aller jusqu'au bout de son intelligence au service de sa foi, il doit faire une théologie du Christ, une théologie du Verbe incarné. Alors, comment va-t-il se prendre? Comment va-t-il s'y prendre? Le mystère du Verbe auquel il adhère, c'est le Verbe incarné. Échappe complètement. C'est vrai. Il y adhère, mais ce n'est pas par là qu'il va pouvoir nous donner un traité du Verbe incarné. Vous voyez, dans sa foi, ça c'est très important de le souligner, dans sa foi, c'est le Verbe de Dieu qu'il atteint en premier lieu. Et comme théologien, c'est la nature humaine qu'il regarde. Sans quitter le Verbe. Hein. Il ne va pas se mettre à spéculer sur le Verbe, vous comprenez? Comment voulez-vous? Tandis qu'en tant que croyant, c'est toujours le mystère du Verbe auquel il adhère en premier lieu. Le Verbe devenu chair. S'il veut montrer que ce mystère n'est pas absurde, répondre à Merleau-Ponty dans notre monde d'aujourd'hui. Répondre à tous ceux qui, comme tous ceux qui se sont opposés au Christ, Nestorius, sont nombreux. Apollinaire. Tous ceux qui ont critiqué à leur manière. Ils l'ont fait, non pas pour critiquer, mais pour rendre plus intelligible. Ils l'ont fait comme ça, avec une bonne intention. Pas croire qu'ils avaient l'intention d'être hérétiques. Pas du tout. C'était mon théologien. Il était autour d'un milieu qui peut-être les a influencés. Vous voyez, on voit des corps analogues aujourd'hui. Il ne faut pas croire du tout que quelqu'un qui se sépare de l'Église va se séparer de l'Église. En premier lieu, pas du tout. Il est persuadé que c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Attitude pratique ou attitude spéculative. Parce qu'il y a des hérésies pratiques et des hérésies spéculatives. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup spéculatif, c'est surtout pratique. Mais du temps des pères de l'Église, c'était spéculatif. Il y avait la tête bien faite. Mais c'était pour, on dirait aujourd'hui, adapter le mystère du Christ à l'intelligence des hommes. Ils ont essayé. En face de cela, de tout cela, actuel et ancien. Il faut que nous comprenions comment le mystère du Verbe incarné, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est pas absurde, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est la chose la plus étonnante de Dieu, la plus merveilleuse de Dieu. Dieu ne pouvait pas faire quelque chose de plus grand que ça. Et Dieu seul pouvait le faire, et Dieu seul peut le comprendre. C'est pas étonnant que nous avons beaucoup de peine de le comprendre. Parce que c'est tellement grand. Vous savez, quand on est dans quelque chose tellement grand, on est tout petit, on n'arrive pas. C'est par le mystère de l'homme que nous devons essayer d'entrer. Le mystère de l'homme assumé par le Verbe, c'est sûr. Vous voyez que tout de suite, on va voir que la création, c'est la première lumière. C'est pas étonnant que dans un monde où on ne veut plus regarder la création, on n'a plus aucune intelligibilité vis-à-vis du mystère du Verbe incarné. La création, il faut partir. L'homme. Et c'est l'homme créé. Pourquoi le pape insiste-t-il tellement sur l'homme? Et derrière, c'est la création. C'est l'homme créé. Pour que nous puissions redécouvrir le mystère d'incarnation. Ça, c'est sûr. La dignité de l'homme et la grandeur de l'homme. La création, œuvre d'amour et de sagesse. L'homme créé à l'image de Dieu. Très important de comprendre ces deux aspects. Vous voyez bien? Comment pouvons-nous montrer que le mystère du Christ n'est pas absurde, n'est pas contradictoire? C'est parce que Dieu crée par bonté. C'est parce que Dieu crée par surabondance. Si Dieu crée par nécessité, on ne comprendrait plus rien. Alors, si c'est la bonté de Dieu qui commande la création, cette bonté, elle est infinie. Elle peut donc aller encore plus loin que de réaliser une œuvre qui est à l'image. L'image, c'est pas l'absolu. L'image est relative au modèle. Elle est relative au modèle, l'image. Autrement, on ne parlerait pas d'image. Image et ressemblance. Alors, à partir même de l'homme, créé à l'image de Dieu, par pure bonté, nous pouvons comprendre, dans la foi, c'est sûr, mais dans une foi éclairée, dans une foi où on essaie de comprendre comment l'intention de Dieu, si vous voulez, l'intention de la sagesse de Dieu, on essaie de remonter jusque-là. Une intelligence qui se met au service de la foi pour montrer que ce n'est pas absurde. Si Dieu crée par amour, à cause de sa bonté, et que sa bonté est infinie, on peut comprendre que Dieu, en créant, nous montre l'attraction réelle qu'il réalise sur son image. À l'image, il y a la ressemblance. Et les deux vont ensemble. L'image, la substance de ce qui est créé, la ressemblance, l'attraction que Dieu exerce sur cette petite créature. Alors, l'attraction, c'est au-delà de la création. C'est le Père qui attire. Il attire par son amour. On remonte à la source. Vous voyez le primat de la causalité finale sur la causalité efficiente.
qui est nécessaire si on veut comprendre la création. Je peux employer ces termes puisqu'on est en théologie. Hein. Au point de vue de la foi pure, je ne les emploierai pas. Au point de vue de théologie, je peux dire que la causalité finale a un primat sur la causalité efficiente. Autrement, je comprends rien à la création. C'est pour ça que c'est si difficile dans notre monde d'aujourd'hui d'entrer dans le mystère de la création. Parce qu'on reste en devant le primat de l'efficience. Et on a une peine énorme de redécouvrir la causalité finale. Peine énorme. On la découvre par moment. Puis vite après, ça dégringole. Or, tout le mystère de la création, c'est ça. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que c'est par là qu'il y a une porte ouverte vers le mystère de l'incarnation. Je vais m'expliquer pour que vous voyez. Ça, c'est l'intuition. Il faut saisir ça. Il faut saisir comment, si la création était premièrement une œuvre d'efficience, vous ne pourriez pas comprendre le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation serait fou. C'est une démolition de tout. C'est Dieu qui perd la tête. Il perd la tête pour faire que la qu'il soit un avec une créature, quoi. Quelle est la dignité de Dieu ? Ce sont les objections que saint Thomas souligne. Hein. Il les a très bien compris, saint Thomas, ces objections-là. Et on doit tout le temps les comprendre. C'est toujours les mêmes. Vous savez, le disque du démon, il ne varie pas. Il n'y a que l'Esprit Saint qui n'aime pas les répétitions. Mais le démon, il aime les répétitions. Parce qu'il n'a plus la finalité. Il n'a plus que l'efficience, le démon. Oh, c'est un actif. Un agitateur. C'est un anarchiste. Alors, il ne peut pas se reposer un seul instant. Ce n'est pas ce qu'il fait quand il se repose. Et quand il agit, au moins, il a quelque chose. C'est pour ça que dans l'Évangile, vous savez bien, on dit que les démons demandent au moins d'habiter dans les petits cochons. Parce que là, au moins, il peut agir. Tandis qu'il est seul, c'est un agitateur. Un agitateur ne peut pas vivre seul. Impossible. C'est l'efficience. La création, c'est une œuvre d'amour. Donc, c'est la finalité qui commande tout. Et dans la finalité, il y a une efficience prodigieuse, merveilleuse. Mais c'est la finalité. Or, la finalité, c'est Dieu lui-même. Alors, je comprends que la finalité peut aller jusqu'au don personnel de soi. L'efficience ne demande pas le don personnel. Les gens qui s'agitent trop ne se donnent jamais. C'est très curieux. Ils se donnent, oui, ils se donnent dans le temps, ils se donnent dans leur activité, ils ne se donnent pas eux-mêmes. Très difficile de se donner soi-même. C'est un amour personnel. Ça, la causalité finale explique cela, le don. Dieu seul, hein, Dieu seul, peut agir en pure causalité finale. Jamais vous. Jamais nous. Nous avons besoin de l'efficience pour nous donner. Mais comme l'efficience vient très vite rivale de la finalité, l'efficience risque d'arrêter la finalité. Mais nous ne pouvons pas agir uniquement au niveau de la causalité finale. Celui qui dit Seigneur, Seigneur n'entre pas dans le royaume de Dieu. Il dit que je t'aime indéfiniment, mais montre-moi que tu m'aimes. Et puis dès qu'il faut le montrer, on s'en va à toute vitesse. On ne peut pas être pur amour. On n'est pas pur amour. On est pur amour dans l'intentionnalité. Et pas dans le réalisme. Dieu seul peut faire un acte de pur amour. Et c'est cela qui nous fait comprendre ce mystère insondable du Verbe. c'est le verbe qui assume. Et voyez, le terme même que les théologiens emploient est très significatif. Le verbe assume. Assumer, c'est prendre chez soi. Ce n'est pas agir sur un autre. Vous n'assumez pas le poids quand vous travaillez avec un burin. Vous n'assumez pas le poids lorsque vous en faites une statue. L'assumer, ce serait le prendre chez soi. C'est ça le mystère d'incarnation. C'est le Verbe qui assume la nature humaine. C'est Dieu qui prend sa créature par pur amour au plus intime de lui, sans aucune barrière, sans aucune limite, au plus intime de lui. Tout Dieu se donne. Le Verbe de Dieu se donne entièrement à l'humanité. Il assume l'humanité. Une causalité finale. C'est le don pur, le don personnel pur que Dieu réalise avec l'homme. Pourquoi avec l'homme? Pourquoi pas avec l'ange quand même, hein, ça aurait été descendre un peu moins. Pourquoi pas avec des petits innocents? Dieu n'a pas le goût du démon, vous voyez. Faut pas une incarnation avec un petit animal. Dieu n'a pas besoin de ça. Il aime en lui-même et lui-même. Pas besoin d'habiter dans les petits cochons. Le démon, oui, c'est curieux. Vous savez, la fameuse thèse au point de vue théologique qui met que la grâce ne peut pas être reçue dans un animal. Alors pensez au démon qui demande d'habiter dans les petits cochons. On voit bien la différence. L'efficience pure, l'amour. La grâce, c'est l'amour. C'est l'amabilité. C'est la causalité finale qui se prolonge, le mystère de l'incarnation. Pourquoi l'homme? À cause du péché. Alors là, vous avez la seconde raison qui fait comprendre comment l'amour de Dieu vis-à-vis de nous est toujours lié à la miséricorde. Alors, la miséricorde, elle assume l'efficacité, c'est évident. Quand on est miséricordieux, on fait quelque chose. Quand on aime, on aime. Pas besoin d'agir, on aime. Nous, on a toujours besoin d'agir, hein, mais Dieu. Or, les deux vont s'allier, se lier dans la sagesse de Dieu. La misère de l'homme, qui est si grande, à cause du péché originel. Un être qui ne peut plus atteindre par lui-même sa finalité. C'est terrible. C'est l'esclavage le plus terrible. Il ne peut plus atteindre sa finalité. Les conséquences du péché originel font que l'homme ne peut plus atteindre sa finalité. Alors, seul Dieu peut lui rendre sa finalité. Il peut la rendre directement. Pas besoin de l'incarnation. Il peut la rendre directement. Mais il peut aussi la rendre d'une manière beaucoup plus aimante. En faisant que ce soit l'homme qui a péché et que ce soit l'homme transformé par le Verbe, l'homme-Dieu, dans le mystère d'incarnation, qui vient sauver ses frères. Alors on comprend mieux cette tendresse de Dieu. Et c'est les deux choses qui nous font saisir, au point de vue de l'intelligence, comment l'incarnation, mais dire que l'incarnation est absurde, mais c'est nier la bonté de Dieu. Dès que vous contemplez la bonté de Dieu, vous ne pouvez plus dire que l'incarnation est une absurdité. Vous devez dire tout de suite que c'est merveilleux. C'est la plus grande manifestation de sa bonté. C'est sa bonté qui s'approche de nous. C'est sa bonté qui vient nous relever. C'est étonnant, ça. Vous voyez, il faut regarder la bonté de Dieu. Si vous ne regardez pas la bonté de Dieu, si vous regardez sa justice, si vous regardez son éternité, si vous... non, vous ne pouvez pas comprendre. Seule la bonté enlève tous les obstacles. C'est curieux. Vous savez, constamment, c'est comme ça. Des gens qui aiment affirmer les absurdités, ça existe toujours. Hein. Il y a des gens qui critiquent indéfiniment. Toutes les absurdités sont nombreuses. Hein. Dans une vie commune, combien d'absurdités? Comptez-les toute la journée. Il y a des gens qui ne voient que ça. Les concierges de la communauté. Ils voient toutes les absurdités. Toutes les absurdités. Quand on voit les absurdités, on ne voit plus l'amour. Et si vous renversez votre regard et vous regardez la bonté, vous ne voyez plus les absurdités. C'est curieux ça. Faites l'expérience. Une journée d'absurdité, une journée de bonté. Vous verrez. La critique appelle la critique. Et la critique est indéfinie. Elle s'arrête devant l'amour. Donc, devant l'attraction que le bien exerce. Vous voyez, première chose que le théologien doit regarder. Le mystère du Christ, au point de vue de ma foi, c'est le sommet. Dès que je réfléchis théologiquement sur le mystère du Christ, je vois que c'est une brèche divine dans le mystère de l'amour de Dieu, dans le mystère de la bonté de Dieu. C'est le visage de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'a pas d'autre visage que l'incarnation. Que la rédemption et l'incarnation. Visage de l'amour, visage de la miséricorde. Et ça ne fait qu'un. Au-delà de l'ordre. C'est très vrai. Point de vue de l'ordre, ça ne se comprend pas l'incarnation. C'est un désordre, comme dirait Merleau-Ponty. C'est un désordre. Pour ma petite raison humaine, pour l'ordre que je considère. Tandis qu'au contraire, dans la lumière de la bonté et l'amour de Dieu, alors ça devient quelque chose d'inouï. C'est un ordre nouveau. Dernière petite précision. Je vous disais tout à l'heure que selon l'Épître aux Hébreux, la parole de Jésus a un sens nouveau. Je ne peux pas ramener la parole de Jésus à la parole des prophètes. Ah, c'est très très important de comprendre ça. Oui, ça ferait comprendre qu'il y aurait deux exégèses. Une exégèse de l'Ancien Testament, une exégèse du Nouveau. C'est pas la même chose. Et que dans l'Ancien Testament, au point de vue exégétique, il y a progressivement un progrès. Et que lorsqu'il s'arrive à Jésus, la parole de Jésus est autre chose, c'est la parole du Fils bien-aimé. Alors, le théologien qui met toute son intelligence pour découvrir la profondeur de la parole de Dieu doit comprendre qu'avec Jésus, avec le Christ, la théologie va acquérir une plénitude au point de vue intelligible. Puisque c'est la parole la plus parfaite. On ne peut pas avoir une parole plus parfaite. Jésus se sert de la parole des hommes, mais il transforme cette parole des hommes pour en donner une nouvelle signification. C'est la parole du Fils bien-aimé. Et c'est la parole du Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Cette parole a donc une signification tout à fait particulière. Je crois que c'est important de réfléchir là-dessus. On n'y réfléchit pas assez. Parce que ça donne au traité du Christ une valeur théologique unique. On essaiera de voir ça demain avec saint Thomas. Parce que c'est peut-être cela qui est le chef-d'œuvre de saint Thomas. Mais réfléchissez au moins là-dessus, parce que c'est fondamental, ça. Il vous dit, c'est l'épître aux Hébreux. Il a parlé par le Fils. C'est que la parole du Christ a une intelligence, une profondeur, une sagesse unique. Quand je dis que la loi est lumière, et quand Jésus dit qu'il est lumière, pas tout à fait la même chose. Hein. Le mot lumière a deux significations différentes. Que la loi soit lumière, si je suis injuste, je dis oui. Mais quand je dis que Jésus est lumière, quand on parle de la sagesse dans l'Ancien Testament, et quand je regarde Jésus comme sagesse, c'est pas tout à fait la même chose. Quelque chose de personnel, unique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parole personnelle? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignement personnel de Jésus? C'est un enseignement qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus pénétrant. Et je dirais que c'est une parole de sauveur. Ça, je ne peux pas le dire non plus. Jésus est notre sauveur. Mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Intimement lié. C'est une parole de sauveur. C'est une parole qui transforme mon cœur. Puisque le salut vient d'amour. Alors, au point de vue théologique, je pose la question. Est-ce que la théologie du Christ n'exige pas une théologie mystique? Je crois. C'est par le mystère du Christ que nous comprenons la théologie mystique. On verra mieux ça demain. Mais je vous le donne tout de suite pour que vous y réfléchissiez. Théologie mystique, c'est une théologie de l'amour. Si le mystère de l'incarnation relève de l'amour pur du Père pour son Fils bien-aimé et l'homme, si le mystère du Christ est un mystère de salut, et de salut qui se fait dans la pure gratuité de l'amour et de la miséricorde. La justice a embrassé la miséricorde. Donc ce n'est plus la justice, c'est la miséricorde. À ce moment-là, je comprends que le mystère de Jésus doit être regardé en premier lieu dans une vision d'amour. C'est un bon aventure. Une vision de théologie mystique. Parce que la parole de Jésus est une parole qui inspire l'amour, qui porte à l'amour, une parole qui conduit à l'amour, une parole qui s'achève dans l'amour. C'est pour ça que je crois que le mystère de Jésus, au point de vue de la théologie, quand on le regarde attentivement, est quelque chose de si grand. Écarter toutes les objections. Je ne sais pas toutes regarder. Hein. On en a regardé quelques-unes. Et puis surtout, nous montrer que le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption, c'est la manifestation ultime, suprême, de Dieu amour, du Dieu miséricordieux. Et donc, le théologien doit comprendre que tout son effort de théologien s'achever, à montrer ce primat absolu de l'amour, ce primat absolu de la miséricorde.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez.